VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Remaniement ministériel au Gabon. Plusieurs ministres changent de portefeuille et le ministre de l'Agriculture, Yves-Fernand Manfumbi, est limogé. Claire Morin-Gibault.
C'est le ministre en charge des affaires présidentielles, Étienne Massard-Kabinda-Makaga, qui a fait l'annonce. 9 ministres voient leur portefeuille changer avec 2 créations de ministères. Le ministère de la Pêche qui revient à Monsieur Rossatanga Rigno et le ministère d'État de la Protection sociale qui revient à Paul Biyogemba. Jean-Yves Théal, diplomate de carrière et conseiller diplomatique du président Ali Bongo Ondimba, remplace Guy Rossatanga Rigno au secrétariat de la présidence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Yves-Fernand Manfumbi, a été limogé, remplacé par Biendi Maganga Moussavou. Le ministre de la Justice change aussi de portefeuille. Francis Nkea Dingue était sur la sellette. Les magistrats en grève depuis fin 2017 réclamaient sa démission. Le Gabon se prépare à des élections législatives devant se tenir avant fin avril selon le gouvernement. Prévues initialement en décembre 2016, ces élections ont déjà été reportées 2 fois.
En RDC, un élu de l'opposition poursuivi pour offense au chef de l'État a été jugé dans sa chambre d'hôpital à Kinshasa. Sa défense dénonce ce qu'elle appelle un acharnement du pouvoir, Edith Isango.
Le député provincial de Kinshasa, Gérard Moulumba, a comparu hier devant un tribunal qui a siégé dans son lieu d'hospitalisation selon son avocat. Pour Maître Léon Gomboa, les pouvoirs veulent le faire condamner par tous les moyens à travers un procès qui n'en est pas un. L'élu local souffre de complications rénales selon son frère aîné, un autre député du nom de Léon Moulumba. Selon lui, Gérard Moulumba n'a pu ni parler ni bouger de son lit d'hôpital lors de cette audience. Son avocat brandit pourtant une ordonnance du parquet largement partagée sur les réseaux sociaux, autorisant depuis 2 semaines Gérard Moulumba à suivre des soins dans un centre hospitalier approprié. Il s'étonne que la libération provisoire de son client, décidée par les parquets, soit toujours bloquée. Gérard Moulumba a été arrêté le 10 novembre à l'aéroport de Kinshasa, détenu au secret, puis transféré le 19 janvier dans une clinique de Kinshasa. Il est membre de l'UDPS. Il risque au maximum une peine de 2 années de prison selon son avocat. Le tribunal a promis de se prononcer sur son cas dans les 48 heures.
Au Tchad, l'UJT, l'Union des journalistes tchadiens, préconise une journée sans presse ce mercredi pour dire non aux agressions dont sont victimes, selon elle, les journalistes dans l'exercice de leur métier. Résultat, pas de vendeurs de journaux dans les rues de la capitale N'Djamena aujourd'hui. Et les radios privées sur place sont restées silencieuses. Seul un quotidien tchadien, Le Progrès, a continué de paraître. Plus de détails sur les plaintes des grévistes avec le président de l'UJT, Belngar, l'armée, la guerre.
Les journalistes en reportage dans les lieux de manifestation et des locaux des médias deviennent des cibles de la police déployée pour réprimer ces manifestations après même les avoir bien identifiées, auxquelles s'ajoutent des appels anonymes, menaces verbales et filatures des confrères correspondants des médias internationaux par des individus se réclamant des agents de renseignement. Dans ces conditions, quelle que soit la volonté des professionnels, l'exercice du journalisme leur est ainsi presque impossible.
Belngar, l'armée, la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens. La lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest maintenant, le groupe Ansarul Islam opérant dans le nord du Burkina Faso, désormais dans le collimateur des États-Unis. Washington vient de l'ajouter sur sa liste noire et a imposé des sanctions à ce groupe islamiste. Abdourahmane Dia.
Selon le département d'État, cette décision a pour objectif de priver Ansarul Islam des ressources dont il a besoin pour planifier et mettre en œuvre de nouvelles attaques terroristes. Cette mesure s'accompagne de sanctions financières et interdit aux citoyens américains d'engager des transactions avec ce groupe. Ansarul Islam est un groupe djihadiste basé au Burkina Faso. Il a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina, près de la frontière avec le Mali. L'initiative indique au public américain et à la communauté internationale qu'Ansarul l'islam a commis ou présente un risque important de perpétrer des actes de terrorisme, a dit le département d'État dans un communiqué. Le groupe djihadiste Ansarul Islam avait revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé ces derniers mois, dont une qui avait fait 12 morts dans les rangs des militaires en décembre 2016.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Togo, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition reprend ce vendredi. Des pourparlers censés durer une dizaine de jours. Le premier jour des négociations lundi a permis la libération de 45 personnes arrêtées pendant les manifestations antigouvernementales. C'était l'une des mesures d'apaisement qu'exigeait l'opposition. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint le représentant spécial du Centre pour le dialogue humanitaire qui suit de près ce dialogue au Togo, Freddy Nkurikiye.
Chaque exercice, chaque séance de dialogue a permis d'avoir un compromis, le plus petit soit-il. Et il n'y a aucune raison de douter que le présent dialogue, qui se tient sous la facilitation du président ghanéen, il doit être là normalement le vendredi à la reprise. Il n'est pas exclu qu'on ait un compromis de meilleure qualité compte tenu des enjeux et de la détermination de chacune des parties. Et essayons de faire en sorte que ça soit pour le bien-être de tous les Togolais et le succès politique des acteurs autour de la table.
La constitution de 92, c'est la principale revendication de l'opposition. Il y a aussi la loi électorale. Quelles sont les concessions possibles des deux côtés?
Depuis 2014, il y avait déjà une ouverture sur la question constitutionnelle relative à la limitation des mandats et au mode de scrutin. Donc ça, je pense que c'est en acquis. Le président de la République avait donné des gages à travers les instructions données au gouvernement. Sur la loi électorale, il y a certainement quelques points à revoir. Ça, laissons-le à ceux qui sont au dialogue pour voir ce qu'ils vont proposer. Mais je pense qu'il y a des améliorations qui sont acceptées de toutes parts, notamment la limitation et le mode de scrutin. Je sais qu'il y aura une question sur laquelle reviendront tous les acteurs, c'est de savoir à quand le compteur sera mis en marche. La dynamique est davantage plus positive qu'un retour aussi simple qui probablement pour certains tiendrait dans un simple slogan, pour d'autres serait absolument impossible, alors que ceux qui le revendiquent peuvent certainement, comme vous le dites vous-même, le pouvoir à donner des signes d'apaisement. D'autres aussi peuvent arriver à faire quelques concessions pour avoir un compromis qui soit inclusif dans le sens où il tiendrait compte des intérêts de chacun.
Et quels sont les scénarios possibles, un compromis gagnant-gagnant?
À moins que vous ne vouliez rester dans le jeu absolument contre-productif, dans le jeu à somme nulle, le meilleur scénario pour le Togo aujourd'hui, comme je l'observe depuis quelques années, ça doit être un scénario gagnant-gagnant, où on évite surtout l'humiliation d'un camp sur un autre, et puis passer ensemble le chemin qui peut conduire à la consolidation des institutions démocratiques.
La rue s'est mobilisée pour exiger le départ du président Faure Gnassingbé.
Je ne pense pas que la lecture soit exactement celle-là. On a entendu des choses comme ça, mais en acteur politique, je ne vois pas pourquoi les acteurs politiques togolais tiendraient à ce qu'il y ait une rupture de la légalité constitutionnelle en le faisant partir comme ça. Donc essayons plutôt de voir les choses positivement. Je ne sais pas si le Togo est dans une posture révolutionnaire qui ferait partie du président aujourd'hui. Je préfère plutôt encourager ceux qui sont autour de la table de privilégier toutes les solutions qui préservent le cadre constitutionnel, même s'il est faible, la qualité qui est là. C'est celle-là qui a été bâtie par ces mêmes acteurs, mais le défi qui est posé à chacun d'eux, c'est l'améliorer de manière constante, de manière conséquente, et dans une optique positive et inclusive.
Freddy Nkurikiye, représentant spécial du Centre pour le dialogue humanitaire, basé à Genève. Et pour terminer, en Guinée, le RPG, le Rassemblement du peuple guinéen du président Alpha Condé, a remporté les élections locales du 4 février devant le principal parti de l'opposition, l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de l'ancien Premier ministre Sélou Daleyne Diallo, qui remporte toutefois la capitale Conakry. C'est ce qui ressort des résultats du scrutin publié ce mercredi, qui porte sur la quasi-totalité des 342 communes du pays. Le RPG a obtenu 1 350 000 suffrages et 3 284 sièges de conseillers municipaux. municipaux. En deuxième position, l'UFDG avec 893 000 voix et 2156 élus. Troisième, l'UFR, l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidi Touré, avec 190 000 voix et 447 conseillers municipaux. Selon les experts, l'UFR et les candidats des listes indépendantes qui effectuent une percée remarquée auront un rôle charnière dans les négociations pour la formation des majorités municipales qui vont s'engager. Merci de votre attention.